I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Postscriptum. Le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
C'est l'anxiété permanente, parce que je vous dis, vous vous couchez le soir et d'abord vous dormez mal, et en vous disant comment je vais la retrouver demain matin, qu'est-ce qu'elle pourra faire, qu'est-ce qu'elle ne pourra plus faire. C'est l'anxiété permanente.
Je n'ose pas sortir toute seule. J'aurais peut-être envie de sortir, de remonter vers la porte de Paris, de revenir, mais je ne me fais pas confiance. J'ai peur d'avoir un problème. Parce que je ne sais exactement ce que j'ai eu. Et je ne me vois pas étaler en travers du boulevard de Clichy, retourner à je ne sais plus quel hôpital. Je ne me vois pas.
Lettre sonore numéro 52. Cher Alzheimer.
Perdre la mémoire. Comme des milliers de fragments de vie qui partent en poussière. Puis, la solitude. La solitude de la personne malade qui, dans un éclair de lucidité, comprend ce qui lui arrive. Mais la solitude aussi des proches qui assistent impuissants à ce cerveau qui déraille. Et le silence qui s'installe, les gestes qui remplacent les mots, la tendresse pour raviver les souvenirs. Cher Alzheimer, c'est l'histoire de Daniel et de sa femme, Danielle, qui s'est éteinte il y a 8 ans des suites de la maladie. Mais cet épisode, c'est aussi l'histoire de Nicole, qui n'a pas voulu nous dire son âge, mais qui vit au centre Alzheimer les Parentèles de la rue Blanche, dans le 9e arrondissement de Paris. Une coquette résidence où Nicole coule des jours paisibles, même si elle ne sait plus exactement depuis combien de temps elle vit là.
Là, on arrive à l'entrée du jardin. Il y a le guichet, là, d'accueil.
Bonjour.
Le chat. Il y en a plusieurs, il y en a trois, mais j'en connais que deux.
Il s'appelle comment ?
Missa. Tout le monde s'appelle Missa. C'est bien qu'il y ait un animal. Parce que, mettons que si on a un petit peu de chien et on lui parle, on sait que ça ne sert à rien, mais on a l'impression, on peut le prendre comme un ami. Moi, on avait un chien et on lui parlait beaucoup. Voilà la promenade. Vous avez là du lilas qui va fleurir. Attention à vous, c'est un très beau jardin. Il n'est pas très grand, mais il est très bien entretenu. Il y a un arbre, je ne peux pas vous dire son nom. Mais il doit être assez haché. J'y viens le matin, le soir, tous les jours. On est tranquille, on peut réfléchir. Parce que quand il y a beaucoup de monde autour de soi, on ne peut pas tellement réfléchir. Mais c'est peut-être pas plus mal, des fois. Comme ça, on ne fait pas des mauvaises pensées. Ici, c'est... Là, je vais vous rentrer.
Voilà la photo de mariage, donc elle avait des grands cheveux hein, qui arrivaient jusqu'à la taille. Là, elle avait fait un chignon, évidemment. Un Ça, c'est toute la famille. Voilà, la grand-mère. Et puis, bien sûr, moi... Donc, vous voyez, bon, elle ressemblait, comme je vous dis, à une actrice de cinéma. Pour moi, c'était... Alors, j'étais bien jeune, là, bien sûr.
C'était en quelle année ?
67.
Et vous aviez quel âge ?
Eh bien, 24 ans. Surtout que le mariage, à l'époque, c'était quand même quelque chose de très important. On signait, comme on dit, hein. Je suis Daniel, j'ai 77 ans et j'ai eu une épouse qui a été atteinte de la maladie d'Alzheimer. On s'est connus sur les bancs d'école, donc on s'est connus au lycée. Moi, j'étais en seconde, Daniel était en troisième. Au lycée technique, c'était la première année donc, que les filles étaient admises au lycée technique. D'ailleurs, elles étaient trois filles. C'était dans le Nord en plus, donc c'était des métiers qui avaient, avec la sidérurgie lourde. Quand je parle de sidérurgie lourde, c'est tout ce qui est fonderie. Comme j'étais dans des classes supérieures à elle, quand elle avait besoin de conseils, c'est à moi qu'elle s'adressait, quoi. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés et puis qu'après, avec l'amitié, c'est devenu de l'amour et puis voilà. Donc Daniel a eu la même formation que moi jusqu'au bac technique. Donc elle était fondeuse. La fonderie, ça consiste à faire des moules. Elle a même appris aussi à couler les cloches. Et donc elle avait une bonne formation et malheureusement, elle a peu travaillé puisqu'après, on s'est mariés. Et puis, est venu le premier enfant. Non seulement elle s'occupait des enfants, mais moi, comme je n'étais pas souvent à la maison, c'était elle qui gérait. Moi, les comptes, je ne savais pas ce qu'il y avait, moi. Après, c'était elle qui avait affaire avec les banquiers. Et donc, c'était elle qui gérait la maison. Voilà.
Et là, dans votre salon, on voit une dizaine de tableaux. C'est elle qui les a tous réalisés ?
Oui, bien sûr. Ah oui, tout à fait, oui.
Il y a des portraits, des natures mortes,
oui.
Des paysages.
Il n'y a pas tout, hein, parce que des tableaux, il y en a encore dans un placard là-haut, il y en a encore je ne sais combien, mais elle en a fait, une cinquantaine.
Vous vivez au milieu de ces toiles.
Tout à fait, oui. Tout ce qu'elle a choisi, ces rideaux qu'elle a fabriqués, ces tableaux qu'elle a peints, ça me permet de vivre dans un endroit où elle a vécu et... Donc, rien n'a bougé, rien n'a changé, et ça restera tel que jusqu'à ce que je disparaisse. Je vous dis, ça me permet de sentir une présence qui est la sienne. C'est sa présence. Excusez-moi. Vous savez... Ça va faire 8 ans qu'elle est partie, mais elle me manque toujours. J'ai passé 40 ans avec elle. On a eu une vie super, on a voyagé. On était très heureux avec les enfants. Et puis malheureusement, s'est installée cette maladie cognitive qu'on appelle Alzheimer. Et là, j'ai su que elle ne guérirait jamais. Parce que je sais très bien que cette maladie... Même aujourd'hui, on ne peut pas la soigner. Les seuls soins qu'on peut donner, c'est de l'amour, de l'amitié. C'est très dur parce qu'on sait que la guérison n'est pas possible. Quand même, il y a quelque chose qui s'en va. Et cette partie qui a disparu ne reviendra plus jamais.
Ici, c'est le salon, alors.
Oui, ça, c'est alors là. Là où on reçoit les amis qui viennent vous voir. Bon. Il y a des champs là-bas. Il y a encore un petit bout de bibliothèque.
Et vous avez de la visite ?
Très peu. Bah, tous les amis sont partis à la campagne. En retraite, merveilleux, les petits oiseaux le matin, son kikine comme des rameaux. Mon ami d'enfance est parti dans l'Yonne. C'est pas très loin, mais c'est quand même à plus de 200 km. Ça fait loin. On vient cuisiner.
Ah.
On va faire des crêpes. Ah, très belle cuisine. Hein.
Bonjour.
Bonjour.
Et vous sortez souvent ?
Depuis que je suis là, je suis sortie. On a été se promener. Avec M. Millet, oui, on est monté vers le boulevard de Clichy, la place Clichy. C'est un peu mon ancien quartier, on est descendu. Et je crois que c'est tout. Je suis sortie très peu. Il y a eu aussi les illuminations. On a fait ça dans un petit autobus ou un autocar, je ne sais pas. Mais je suis quasiment jamais sortie. Ici, je me sens très bien. Je me sens en sécurité. Et c'est très important. Parce qu'après ce qui m'est arrivé, je me dis que je suis en mesure de rentrer à la maison. Mais je ne suis pas sûre de ne pas m'écrouler par terre. Et puis, personne ne me l'a dit, mais moi, je pense peut-être que ça peut à nouveau m'arriver. Hein? Un jour, je suis partie pour faire une course d'une heure, et je suis jamais rentrée. Je suis tombée par terre. Je marchais dans la rue. Ah oui, je voulais prendre des places pour Roland-Garros, parce que j'aime beaucoup le tennis. Et j'ai été voir, il y avait une queue épouvantable et tout. Il y avait des gens qui vendaient des billets au marché noir. Et je dis, oh là là, ça me fatigue cette foule. Et je suis partie, je dis, je vais marcher un petit peu. J'ai marché 5 minutes et je suis tombée. Mais j'ai eu aucun prémisse. Rien. Rien du tout. C'est bizarre, hein. Là, et je me suis réveillée, je peux pas vous dire. Tout ça, c'est flou. C'est très flou, très très flou. Et puis, j'y repense un peu, mais c'est des fragments. C'est des flashs que j'ai. Mais sur l'étalement dans le temps, je ne sais pas. Je crois que je suis restée 3 semaines à l'hôpital américain, on me l'a dit. Mais ma mémoire, comment vous dire, c'était pas ordonné. C'était pas ordonné. C'est des flashs que j'ai de l'hôpital américain. Et je me souviens, la nuit, je ne dormais pas. Puis ils ne voulaient pas donner de médicaments pour dormir. Et je marchais, je me relevais vers 11h30 du soir parce que je n'arrivais pas à dormir. Et je marchais. Et je marchais dans ce couloir avec des cris, les portes étaient ouvertes tout le temps. Et puis j'ai eu connaissance avec une dame, une grande femme, très mince, un peu cuivre, elle est belle. Et elle, je lui ai dit, mais d'où vous êtes ? Ah, je suis de loin, loin, elle m'a dit. On se donne rendez-vous le lendemain à 11h du soir, environ, et on a recommencé. J'ai marché avec elle, comme ça, pendant une semaine. Et puis, un jour, je ne la vois pas. À minuit, je me lève, bon, elle n'était pas là. On m'a dit, elle est retournée aux îles sous le vent. Elle était morte parce que je ne l'ai jamais revue. Elle a été pour moi un repère. J'avais rendez-vous avec quelqu'un avec qui je pouvais parler. Et moi aussi, j'étais son seul rendez-vous. Parce que moi, je n'ai pas voulu que les gens viennent me voir. Je ne voulais pas. Il y a des gens qui sont venus, je me souviens. Ma belle-fille est venue avec sa fille. J'ai mon ami d'enfance que j'ai encore. Je l'ai connu, j'avais 5 ans, mais on est encore amis. Et puis, tout le monde est venu un petit peu au début, quoi. Au début, je ne sais même pas si c'est le début. Je ne sais pas. J'étais très isolée. Aussi, là, j'ai beaucoup d'amis qui ne sont plus là. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. parce que j'ai vécu longtemps avec quelqu'un qui avait 3 enfants. Et, oui, mais maintenant ils sont grands, hein. Et puis ils ont tous fait de grandes études, alors tout le monde est parti. Ils n'ont pas eu peur de s'expatrier pour travailler. Mais c'est bien, ça. Oui. Et maintenant, je perds un petit peu le contact parce que chacun a sa vie. Moi, j'ai ma vie aussi. Et, mais c'est très bien quand même. Ah oui, c'est bien. Surtout à l'hôpital après, au Bichemont, il y avait beaucoup d'activités. Et j'ai voulu les faire. Il y avait de la cuisine. Il y avait des exposés sur l'histoire, les maths, très bien. Mais mon cerveau, je ne pouvais pas me souvenir de tout. Je ne pouvais pas me souvenir de tout. Mais c'est confus parce que des fois, c'était pas moi. Je ne sais même pas. Quand je suis arrivée ici, je ne peux pas vous dire, parce que ça m'a paru tellement long au Bichemont, et puis à l'hôpital américain aussi, ça m'a paru long, mais je ne connais pas exactement les durées de séjour que j'ai effectuées là-bas. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Et puis j'avais des examens beaucoup, la tête, je faisais des radios, pendant 1 heure, il fallait pas que je bouge. Sale période. Ben finalement, ils ne m'ont pas retrouvé un truc extraordinaire.
Cher Alzheimer, vous êtes une maladie qui brise une famille. On ne connaît pas dans quel monde vous entraînez la personne atteinte de votre maladie. Donc voilà, ça c'est un album que mon fils a fait, mais elle était déjà malade à l'époque. Alors ça c'est un mariage d'une cousine, donc elle est là. Elle a un pansement parce qu'elle se grattait. C'était un tic. Elle en avait 2 d'ailleurs de tics. Elle nettoyait ses lunettes en permanence. Et je me suis aperçu après que c'était en fait, ses lunettes n'étaient pas sales. C'est que la vue baissait, elle perdait la vue. Et son autre tic, c'était de se gratter au sang. Le menton en particulier. Je ne savais pas quoi faire. À un moment, j'avais pensé lui mettre des moufles. Et après, j'ai dit, non, parce que si elle met des moufles, je lui mets des moufles, ça va la gêner, puis ça va la diminuer encore. Parce que je n'ai jamais voulu faire voir qu'elle était malade, en fait. Parce qu'un jour, elle m'a dit, je guérirai. Hein. J'ai dit, bien sûr. Alors que je savais bien que c'était pas possible. Alors, bon, y a beaucoup de photos. Hein. Donc elle avait beaucoup changé déjà. Voilà. Mais bon, j'ai toujours fait en sorte qu'elle ne soit pas à l'écart, quoi, qu'elle soit toujours dans les réunions de famille. On a même continué à voyager d'ailleurs.
Je vous fais remonter un petit peu en arrière. Est-ce que vous pouvez me raconter comment les choses se sont déroulées, comment vous avez su qu'elle était malade et plus précisément, en fait, les étapes
C'est-à-dire qu'au départ, elle était fatiguée. Elle me dit, je vais me reposer. Alors, elle se reposait. Mais ça arrive dans la vie qu'on ait des coups de fatigue. Et moi, je ne me suis pas rendu compte à l'instant T que c'était un AVC. C'est après que cette fatigue était quand même permanente. Donc à ce moment-là, j'ai vu un médecin et il m'a dit « Votre épouse fait un AVC. » D'ailleurs, il faut l'emmener tout de suite à l'hôpital. Donc elle a vu un médecin et hospitalisée à Pâques 2010. Je m'en souviens très bien, il y avait mes enfants qui étaient là. Donc son AVC s'est déclaré, elle avait 56 ans. Donc elle avait perdu la gestuelle, elle avait perdu la parole. Et c'est de là que le cardiologue qui la suivait à l'hôpital a réagi rapidement et a trouvé une place en maison de santé. Elle a été super bien soignée, puisque au bout de 4 mois, pratiquement, elle avait récupéré, elle était revenue à peu près avec 50% de ses possibilités. Et au début qu'elle est revenue ici, pareil, donc elle faisait sa toilette, Et elle mangeait encore avec, avec sa fourchette et son couteau. Et je m'étais dit, ma foi, bon, elle ne peut plus faire certaines choses, mais ce n'est pas grave. Moi, je pourrais le faire, parce qu'il n'y a pas de raison. Et donc, j'avais beaucoup d'espoir que ça puisse continuer comme cela. Et puis, je vous dis, petit à petit, donc, je me suis aperçu que la perte de mémoire était là. Elle demande, elle me dit, tiens, on doit aller chez un tel, quand est-ce qu'on y va? Ben, je lui dis, c'est telle date. Et puis, le lendemain, tiens, on doit aller chez quelqu'un, c'est quelle date? Ben, je lui dis, c'est telle date. Mais jamais je ne lui ai dit, mais je te l'ai dit hier. Jamais je ne lui ai dit. Et c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait donc une perte de mémoire. Donc j'ai vu le médecin, j'ai vu son généraliste, et puis je lui ai dit ce qui s'était passé, qu'elle me redemandait toujours les dates. Et il m'a dit, c'est sûrement un début d'une certaine maladie, il faut consulter un neurologue. C'est-à-dire qu'ils lui ont fait faire un tas de questionnaires, hein, c'est un questionnaire particulier. Et puis après j'ai eu un entretien avec le neurologue, et qui m'a dit, voilà, c'est le début d'Alzheimer. Alors c'est le coup près. Mais ce qu'il y a, c'est que en fait, l'AVC a détruit une partie des cellules du cerveau. N'étant pas irrigué, donc il y a des cellules qui ont été détruites. Et c'est en détruisant cette partie des cellules du cerveau qui a amené la maladie d'Alzheimer. Je pense qu'elle était assez intelligente, que si un jour je lui avais dit à la maladie d'Alzheimer, elle savait très bien. Elle aurait très bien su comment ça allait finir. Hein. Mais jamais je ne lui ai parlé de ce qu'elle avait. Elle ne l'a jamais su.
Ben, je crois que j'ai perdu beaucoup de capacités, je trouve. Parce que je travaillais longtemps. Et avec des postes où il fallait vraiment avoir toute la tête. Je travaillais à l'Assemblée nationale. J'ai passé le concours et il y avait très peu de gens reçus. Et je connaissais pas mal l'informatique, parce que dans la famille, tout le monde était devant le micro et tout. Ça m'était pas inconnu. Et ça, il y a longtemps. Hein. Alors, j'étais au service informatique. Voilà, parce que...
À l'Assemblée nationale.
À l'Assemblée, oui. Au début, oui. Alors j'ai fait ça, puis après, bon, bah, j'ai voulu travailler autrement, avec un parlementaire. C'était un président. J'ai fait beaucoup de sport, de patins à glace, des longues marches de plus de 50 km. Oui, je suis assez sportive. Surtout le patin à glace, j'adorais ça. Voilà l'histoire de Nicole.
Donc c'est une maladie cognitive. Donc c'est là que j'ai entrepris de lui faire faire pas mal de choses, notamment de l'orthophonie, de la piscine, hein, de l'aquagym. J'avais acheté un pédalier, j'avais travaillé en plus. On faisait des exercices, que ce soit physique ou mental. Bon, j'en ai quelques-uns là, des très simples. Hein. Par exemple, voilà. Et puis, bon, je projetais des images au tableau, puisqu'on avait un vidéoprojecteur. Donc, par exemple, je projetais des images où il y avait une voiture, un arbre, une maison, un vélo. Et donc, je lui disais, regarde bien. Et puis après, j'ai enlevé la feuille et puis je lui demandais ce qu'il y avait sur la feuille. On dit peut-être qu'avec les exercices, le cerveau va travailler et ça permet d'entretenir et que ça va durer un peu plus longtemps. Et puis, bah, petit à petit... Après, il n'y a plus rien, quoi. C'est là qu'on s'aperçoit que la maladie a gagné. En fait, elle était plongée dans une autre vie. C'était plus la même vie que ce qu'elle avait avant. Ce sont des gens qui vivent dans leur monde. Je pense qu'ils ne sont peut-être pas malheureux, parce qu'ils ne se rendent pas compte. C'est un monde secret, ça. Elle était gaie, et puis, bon, si vous lui parlez de la grand-mère qu'elle a connue jadis, elle se rappelle très bien. Les gens ont des souvenirs ont des souvenirs de lointains. C'est ce qui est très particulier, et je vous dis, ils ne se rappellent plus de ce qu'ils ont fait la veille. Par contre, ils se rappellent de ce qu'ils chantaient quand ils avaient 20 ans. Alors c'est drôle parce qu'elle sifflait. Et elle sifflait, mais elle n'avait pas le droit quand elle était petite. Parce que sa grand-mère lui dit toujours, si tu siffles, ça va faire peur à la Sainte Vierge.
J'ai une assez bonne mémoire. J'oublie des choses, mais c'est peut-être parce que j'estime même qu'à mon âge, j'ai même une bonne mémoire. J'estime que c'est capital. On ne peut pas vivre sans. Bon, j'oublie peut-être des choses. Mais il faut aussi faire appel à sa mémoire. Hein. C'est comme un fichier, hein, on appelle. Bah, je suis née à Paris. Je suis jumelle avec un garçon. On était des enfants de Montmartre. Et il y avait je dirais pas des bandes d'enfants, mais des groupes d'enfants de 5-6 qui se réunissaient. On était ceux de la rue Ramey. Il y avait la bande de la rue Ramey, la bande de la rue de je ne sais plus quoi. C'est drôle, mais c'était gentil. On passait notre journée dehors quand on n'allait pas à l'école, c'est certain. Je suis encore amie, je vous l'ai dit, avec mon amie. J'ai connu, on avait 5 ans. J'étais en classe le premier jour, la matinée, vers 11h, 11h30. La maîtresse nous a dit, la classe est finie. Tout le monde se lève. Moi, paumé. Je me penche vers la fille qui était derrière moi. Et je lui dis, est-ce qu'on revient ? Elle me dit, oui, bien sûr, on revient. On revient, je ne sais plus quelle heure c'était. On est encore amis. Mon amie Monique, oh ouais. Ah ouais, je suis très fidèle en amitié.
Cher Daniel, nous avons vécu tous deux une superbe vie. Tu as donné à nos deux enfants une parfaite éducation et instruction. Malheureusement, cette terrible maladie est venu briser ce long fleuve tranquille. Pour moi, tu es et seras toujours près de moi. À bientôt. En fait, cette maladie, les phases, on ne peut pas les définir. En phase 1, je lui demandais, par exemple, à 4h de l'après-midi, ce qu'elle avait mangé le midi, elle se rappelait. Et puis après, petit à petit, à 4h, je lui demandais ce qu'elle avait mangé le midi, elle ne se rappelait plus. C'est là que je me suis aperçu que cette maladie gagnait. Les cuissons, par exemple, elle pouvait allumer, faire marcher le gaz ou la plaque électrique. Et puis bon, ça pouvait cuire pendant 2 jours. Hein, et puis après, bon, je ne parle pas de la phase 3, parce que la phase 3, il n'y a plus rien, c'est fini. Il n'y a même plus de discussion. Et même, elle ne reconnaissait plus les gens. Les paroles deviennent confuses à la fin. Et puis bon, jusqu'au jour où elle ne peut plus tenir sa fourchette. Moi, je dirais qu'un aidant, ça devient un métier. Puisque bon, la personne qui est atteinte de cette maladie n'a plus d'autonomie. C'est un retour à l'enfance, mais tout petit. Donc vous êtes obligé de racheter des objets, comme par exemple le biberon pour les petits, vous savez, le verre avec les deux anses là pour boire, puisqu'un verre elle peut plus le tenir. Hein, donc les repas, quelquefois on les prenait à deux quand c'était un repas froid. Je la mettais en face et je lui donnais la béquille comme on peut faire à un enfant, peut-être qu'à le dire, parce que d'un seul coup on a l'impression que il manque quelque chose, quoi. Hein, parce que c'est vrai que à table c'était toujours des grandes discussions avant, surtout quand il y avait les enfants. Et puis après il n'y avait plus d'échange. À part les fugues, elle faisait des fugues. Il a fallu que je barricade un peu toutes les portes, là, parce que... Et c'est pour ça que je faisais mes courses en courant. Et je courais en permanence, parce que j'avais toujours peur qu'il lui arrive quelque chose. Et j'ai continué bien longtemps. D'abord, mes enfants me le disaient, « Bah, papa, t'as plus besoin de courir, hein, maintenant. » Une fois, j'étais au fond du jardin. Je l'avais pas vu. Puis je suis revenu là et elle n'était plus dans la maison. Alors, j'ai appelé la gendarmerie. Et ils sont venus avec des chiens, même. Et en fait, elle était en face, chez une voisine qui ne m'avait pas prévenu. Voilà. Je n'osais plus sortir. Ou quand je sortais, bah, je barricadais du mieux que je pouvais les portes, de façon à ce qu'elle ne puisse pas sortir. Vous pensez qu'à votre patient. C'est très dur.
Je ne suis quasiment jamais sortie. Mais ça ne me manque pas tellement. C'est drôle, hein. Parce qu'ici, vraiment, on se sent bien. On se sent entouré. C'est ça qui compte.
Pourquoi vous ne sortez pas? Vous pouvez sortir?
J'ai jamais essayé. Je vais essayer. Je pense qu'on me laisserait sortir, mais... Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Je vais faire un essai. Revenez me voir. Mais moi, j'aurais peur. Je me sens en sécurité ici. Et les gens sont tellement gentils, adorables. Et tout, qu'on n'a pas tellement envie de s'évader.
Chers aidants, je sais ce que vous vivez actuellement. J'ai vécu ces moments difficiles. Je sais, il n'y a pas de traitement qui pourrait permettre la guérison. Le seul remède que je vous conseille, chers aidants, c'est de donner l'amour que vous avez toujours donné.
Il faut savoir que quand vous avez quelqu'un qui est malade comme ça, l'entourage n'existe plus. Hein. Il ne vous reste que quelques amis, très peu. Et donc, bah, c'est peut-être ces amis-là aussi qui m'ont aidé. J'avais quand même quelqu'un qui venait faire la toilette à la fin. Enfin, la toilette, c'était, vous savez, c'était la toilette avec un gant. Hein. Donc, bah, pour tout vous dire, ce que je faisais, deux, trois fois par semaine, je la prenais avec moi sous la douche. Donc là, j'étais sûr qu'elle avait une toilette complète, et aussi bien les cheveux que le corps. Donc, je la prenais sous la douche, et voilà. Ça, c'était des moments forts où on était tous les deux sous la douche. Oui, c'était des moments forts parce que, en fait, je lui rendais ce qu'elle avait donné aux enfants. Puisque, quand ils étaient petits, c'est elle qui les douchait. En fait, j'avais l'impression de lui rendre ce qu'elle avait fait. Et puis, bah, le soir, quand je la portais là-haut dans la chambre, et que je l'avais dans mes bras. Donc, effectivement, c'était des moments très durs. Enfin, très durs, mais qui nous rapprochaient énormément. Ben oui, comme il n'y a plus de communication, on recherche le contact. Et donc, ce contact, il n'est plus par la parole, mais il est par le corps, en fait. C'est pour ça que jamais j'ai voulu la placer, parce que je ne voulais pas perdre... Je ne vais pas dire ces instants de... Pas de bonheur, mais bon... pour moi, c'était des actes importants. C'est quelque chose qui nous rapprochait. Et je pense que... J'espère qu'elle l'a ressenti. C'était une intimité exclusive. Que, c'est vrai que jamais de ma vie, j'aurais pensé la doucher, la prendre la douche avec elle. Jamais je n'aurais pensé de la porter au lit, de la descendre le matin. Jamais j'aurais pensé à ça. Hein. Mais quand il a fallu le faire, eh bien, je l'ai fait avec beaucoup de cœur, et c'est normal. Et la placer, j'avais l'impression de l'abandonner et de la livrer à des mains que je ne connais pas. Est-ce qu'elle sera bien soignée? Est-ce que les gens feront aussi bien que je peux faire? Et puis le personnel, est-ce qu'il peut donner cette amitié, cet amour à une personne malade? Je ne pense pas, ils n'ont pas le temps. Moi, j'y vais quand même avec elle toute la journée, toute la nuit. Il faut que je me batte. Et je ne peux pas l'abandonner, il faut absolument que je lutte.
Je ne m'ennuie pas. La télévision est toujours allumée dans l'entrée. On peut se mettre devant la télévision, les journées passent. Il y a toujours un moment où on peut parler à quelqu'un, où il y a une conférence organisée. Les journées sont remplies, avec peut-être de petites choses, mais les journées sont remplies, et surtout avec les autres personnes. Je crois qu'on a envie de partir quand on n'est pas heureux. Mais je ne sais pas comment ils font, mais ils ont réussi à créer une atmosphère conviviale. Tout le monde est adorable, vous ne pouvez pas savoir. Il y a une gentillesse extraordinaire ici, tout le monde.
Moi, je pense qu'elle me reconnaissait à la voix parce que j'ai une voix particulière. Et par contre, elle ne pouvait me reconnaître que par la voix parce que je pense qu'elle était devenue pratiquement aveugle. Quand elle était donc en phase terminale, et quand je parlais, des fois elle avait un sourire, donc je me suis dit, je pense qu'elle me reconnaît.
Comment vous voyez l'avenir?
Je sais pas. Revenez me voir, je vous répondrai. Non, c'est vrai. Non, c'est un problème vaste, il faut que je réfléchisse. On ne peut pas répondre comme ça.
Vous venez d'écouter un épisode de Post-Scriptum, le podcast qui ouvre un nouveau dialogue. Un grand merci au docteur Carrière de nous avoir ouvert la porte du centre Alzheimer Les Parentèles. Un grand merci aussi à Daniel et à Nicole pour la confiance qu'ils nous ont accordée. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, on est aussi sur Instagram. Notre compte, c'est Scriptum Podcast, tout attaché et en minuscules. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Twitter sous le nom Post-Scriptum. À bientôt!
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.